Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h passé de 2 petites minutes et vous l'entendez déjà, le générique partir tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Aujourd'hui, une émission qui n'a pas d'invité, mais c'est pas grave, on va parler de l'actualité sportive avec mes compères qui sont autour de la table et des compères qui mériteraient d'être ballon d'or, mais bon, malheureusement, apparemment, les récompenses ne vont pas vers les chroniqueurs de Radio G. Bizarre. Bref, c'est pas grave, je vais vous les présenter. Cédric est en face de moi. Salut Cédric.
Salut à tous. Ouais, on est encore victime du lobbying en France.
Effectivement, malheureusement, on n'est pas assez récompensé ici à Génération Sport. Bon, pas grave. Max est à la régie. Salut Max.
Bonsoir Alex. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et ouais, bah, encore un scandale dans le monde du football. Bien on sûr. Va en parler. Mais bon, c'est vrai que vu nos performances, une petite récompense, ça aurait pas été de refus.
À ton époque à la NDC, c'est vrai que tu aurais peut-être mérité au moins une nomination, ça aurait été au moins le minimum.
Alors tu vois, c'est vraiment l'époque dans laquelle je n'aurais pas mérité une nomination. Ah, c'est bien cette époque.
Bon, non, mais on va se mettre à Football Manager 2021.
Ah oui,
comme ça, on sera sûr d'avoir un titre et un ballon d'or.
C'est possible, peut-être, hein, peut-être. Au programme de l'émission, évidemment, le fameux 1-2. On va revenir un peu plus largement sur toutes les performances des clubs en juin. Il y a eu de très bons résultats, que ce soit du côté de l'UFAB, des Ducs, du SCO, et puis du SCO Handball également. Et puis après, on passera à la petite pause musicale. On enchaînera avec le débrief des résultats du Ballon d'Or, vous vous en doutez évidemment. On parlera également du Ballon d'Or féminin, du trophée Copa ou encore du trophée Yashin. On reviendra évidemment donc sur l'élection notamment de Lionel Messi au Ballon d'Or masculin. Et puis on enchaînera sur une deuxième pause musicale et on terminera sur un débat sur la Coupe Davis et cette nouvelle version qui a été mise en place il y a 2 ans. Il y a eu une année Covid en 2020, mais voilà, cette édition de la Coupe Davis qui revient cette année et qui, déjà, premièrement, n'a pas réussi aux Français et puis deuxièmement, qui fait beaucoup polémique. On reviendra dessus et puis on va commencer tout de suite ce 1-2 avec les actualités locales. On va commencer avec le SCO Handball qui tient enfin sa deuxième victoire de la saison en Pro League. 2 mois après son dernier succès, le club angevin a décroché 2 points vitaux pour sa survie en deuxième division. Opposé à Billère vendredi à Jambouin, les joueurs d'Issamtej ont retrouvé le sourire face à une équipe du milieu de tableau. La partie commence à l'avantage des locaux, mais ils se font reprendre juste avant la pause par des Billérois qui retrouvent une certaine rigueur défensive. À la reprise, les hommes en noir et blanc repartent à l'attaque et creusent petit à petit un nouvel écart qui oscille entre 3 et 5 buts. Malgré cette avance confortable, les Angevins vont jouer à se faire peur en fin de match. À 5 minutes de la fin, alors qu'ils menaient 27-21, les scoïstes vont encaisser un 5-0 dans les derniers instants de la partie. Un relâchement finalement sans conséquence. Victoire finale donc 27-26. Le SCO prend donc de l'air avec ce succès précieux à domicile qui doit également redonner de la confiance à un effectif en plein naufrage ces dernières semaines. Pourtant, rien ne change au classement, ou presque, puisque malgré la position de lanterne rouge pour Angers, le club n'est plus qu'à 1 point du premier non relégable Strasbourg. Peut-être l'occasion de sortir de cette place de dernier la semaine prochaine lors du déplacement à Tremblay, 3e du championnat.
Et on va continuer sur la chronique d'actualité locale. On va parler du SCO Football. Les Angevins ouvraient cette 15e journée de championnat et se déplaçaient chez un très gros de ce début de championnat, puisque les Angevins se déplaçaient à Lens et la troupe Angevine a ramené le point du match nul avec un score final de partout. Des buts en juin signés Sofiane Boufal à la 40e minute de jeu et Romain Thomas à la 70e. Et puis côté Lensois, c'est Gaël Kakuta et Florian Sotoka qui ont permis aux Lensois de prendre ce point du match nul. Si on regarde au niveau du classement, le SCO est pas mal placé du tout. Le SCO est 6e. Et puis on en avait déjà parlé lors de notre dernière émission. Et le prochain match du SCO, ce sera donc dès demain à 19h au stade Raymond Coppa avec une grosse réception, la réception de Monaco.
On peut déjà peut-être dresser un premier bilan. Le SCO est toujours 6e. Ils ont tenu tête à une des meilleures équipes du championnat depuis la saison, depuis le début de la saison, pardon. C'est vraiment encourageant ces résultats qui s'enchaînent.
Ouais, c'est clair. Bah surtout qu'on avait beaucoup d'a priori hein, sur ce ouais. début de saison, avec un nouveau coach, avec un nouveau staff, avec des nouveaux joueurs. Et au final, la sauce a pris. Et voilà, on en a parlé. Il y a des joueurs comme Sofiane Boufal qui reviennent à un niveau vraiment intéressant. Et puis surtout, voilà, Mohamed Alichaud qui la pépite en juin, qui reste encore, qui est pourtant encore en juin et qui brille sur cette attaque en juin. Et puis voilà, des mecs comme Romain Thomas qui marque encore, qui met 2 ou 3 buts, je crois, en ce début de saison. Donc voilà, il y a une coalition parfaite entre les plus anciens, les plus expérimentés, les plus jeunes. On s'attendait pas du tout à ça, mais le résultat, c'est que voilà, le SCO est 6e et on espère que ça va encore durer.
Cédric, un petit mot sur la forme du SCO?
On va dire impressionnant, quoi. Enfin,
surprenant, peut-être un peu.
Surprenant, oui, aussi, mais je trouve impressionnant aussi parce que on savait que ça allait être une transition qui allait être compliquée et finalement c'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de gros accidents de parcours pour l'instant en termes de score. Enfin, contre des adversaires directs, il y a souvent les matchs qu'il faut avec les résultats souvent qui vont avec. Il y a combien de défaites pour l'instant ? Si on a la stat,
je l'ai pas sous les yeux, mais il doit y en avoir peu parce qu'il y a eu pas mal de matchs nuls. Hein.
C'est très peu, par contre.
Le SCO est habitué quand même des matchs
alors,
nuls.
Alors, j'ai la stat sous les yeux et on a fait 3 défaites.
3 défaites, ce qui est assez voilà, peu.
Il y a que 2 équipes qui ont moins de défaites que le SCO, c'est le PSG avec 1 défaite forcément. Et l'Olympique de Marseille avec 2 défaites. Ouais, donc c'est quand même une bonne. Voilà, ça montre aussi la bonne qualité défensive du SCO.
C'est ça. Enfin, finalement, on perd très peu de points, quoi. Cette année comparé à d'autres saisons, donc on se rapproche quand même du 42 points, hein, tout doucement et sûrement.
Et pourquoi pas viser le top 10 en fin de saison.
En tout cas, oui, de toute façon, je pense que c'est les ambitions qui peuvent être mises pour la deuxième partie de la saison.
Ne brûlons pas trop les étapes, on verra ça en fin de saison. Il va falloir enchaîner surtout pour le SCO.
Et puis il y a la Coupe de France aussi qui va arriver pour le SCO.
Qui peut aussi prendre pas mal d'énergie pour certains joueurs. Donc après, ça peut aussi être l'occasion de tourner. On verra comment tout cela est géré par Gérald Baticle. On enchaîne avec du basket. Seules les joueuses de l'UFAB étaient engagées ce week-end en championnat. Et un défi de taille les attendait à la salle Jean-Bouin dimanche après-midi. Le leader Charleville-Mézières se déplaçait en Anjou pour conforter leur première place. Mais les joueuses des Flammes sont tombées face à des Angevines survoltées. Impulsées par sa meneuse Alexis Peterson, l'UFAB a abordé la rencontre de la meilleure des manières et le club angevin menait à la pause 45-36. La reprise fut donc plus difficile pour les locales qui devaient faire face à des Ardennaises survoltées également. La blessure au genou de la pivot Nabala Fofana n'arrangeait pas non plus les affaires des Angevines. Mais dans le dernier quart-temps, les filles de David Gauthier pouvaient compter sur la grande forme de l'américaine Peterson, auteur de 21 points et 11 passes décisives dans la partie. La victoire finale de l'UFAB 79-71 permet aux partenaires de Jasmine Bailey de monter à la 4e place du championnat. Une place plutôt attendue pour les promus de LFB. Prochain match en Coupe de France, dimanche contre Tarbes, avant de retrouver le championnat le 12 décembre prochain contre Basketland. Peut-être que Génération Sport y sera. Affaire à suivre.
Le 11, tu voulais dire ?
Le 11 ou le 12, oui, j'ai dû me tromper. Oui, il y a le 11, effectivement.
Bon, on y sera les deux jours. Hein,
oui, on peut rester tout le temps.
On campera là-bas. Okay, ouais. Et voilà, on va parler maintenant hockey avec les Ducs d'Angers. Mardi dernier, pendant notre émission, les Angevins s'étaient déplacés à Cergy Pontoise et les Ducs d'Angers ont remporté ce match avec un score fleuve, résultat 6-3 pour les hockeyeurs angevins. Et le dernier match en date, c'était vendredi dernier avec un gros déplacement pour affronter les Rapaces du Gap. Et les Angevins ont réalisé un très beau coup avec cette victoire à l'extérieur, victoire 4-3. Et au niveau du classement, les Ducs sont toujours deuxième et ont conforté même cette deuxième place en battant Gap qui était troisième. Ce soir, habituellement, les mardis soirs, les Ducs jouent en Ligue Magnus, mais c'est pas le cas pour ce soir puisque nos Angevins joueront demain en Coupe de France, mercredi 1er décembre donc à 20h, et ce sera sur la pelouse de Nice pour ce troisième tour de Coupe de France.
Ah bravo, la pelouse, hein.
Pardon, j'ai dit la pelouse.
Ah oui, la pelouse, hein, bravo.
Bah après, ils peuvent se reconvertir au sur gazon, rien n'est impossible.
Alors ça c'est vrai, et puis bon, une pelouse en glace,
ça, c'est possible. Si elle a gelé...
Ça s'appelle une patinoire.
Merci Cédric.
Le Robert en ce moment, ils mettent des noms un peu bizarres dans leur dictionnaire. Voilà, moi je vais faire rentrer ce terme-là dans le dictionnaire.
Une pelouse.
La pelouse de glace.
C'est poétique en vrai un peu.
Je te remercie.
Ouais, du coup, pareil, un mot sur la forme des Ducs. C'est toujours aussi positif. Déjà, il y a une vengeance, un sentiment de vengeance par rapport à Gap. Et surtout, il y avait une belle remontée. Je crois que les Ducs perdaient 3-1 et sont remontés à 4-3. C'est encourageant, messieurs, pour la suite.
Ah bah oui, c'est clair. Comme on a vu, ils sont deuxièmes. Ils ont battu Grenoble, qui était imbattu, enfin ouais. Imbattu, n'importe quoi.
Invaincu
et imbattable. Bref, qui était invaincu dans cette saison, ils ont réussi à les faire tomber, même si Grenoble est loin devant. Bah, les Ducs ont montré que ils pouvaient faire tomber les plus gros. On a battu Gap, Rouen. Il me semble qu'on perd les deux matchs, mais voilà, on reste deuxième.
Et puis les deux matchs contre Rouen restent quand même solides.
Oui, c'est pas deux grosses défaites.
C'est pas le score qui reflète forcément la finosomie des matchs. Oui.
Mais en tout cas, une deuxième place à ce stade du championnat, c'est bien sûr que c'est très très positif pour les Ducs.
Et on va pouvoir enchaîner avec les actus internationales. On va enchaîner avec du basket de nouveau, mais cette fois on va prendre la direction des États-Unis avec la NBA. La nuit fut assez agitée avec notamment un record de points et un combat fratricide à l'Est. Ce record de points, c'est celui du Lituanien de la Nouvelle-Orléans, Jonas Valanciunas, qui a inscrit 39 unités lors de la victoire 123-104 de son équipe lors de la réception des Clippers de Los Angeles. Los Angeles. À l'Est, c'est Chicago qui accueillait Charlotte, et c'était l'occasion d'assister à la troisième confrontation qui opposait les frères Lonzo et LaMelo Ball. C'est la franchise des Bulls de l'aîné qui a disposé de la formation du Benjamin 133-119. Les Bulls ont également été portés par Nikola Vucevic, auteur de sa meilleure perf de la saison avec 30 points et 14 rebonds. De l'autre côté de l'Atlantique, l'heure était à la trêve internationale et aux éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. L'équipe de France était engagée dans le groupe E ce week-end, dans le groupe du Portugal, de la Hongrie et du Monténégro. C'est d'ailleurs dans le petit pays d'ex-Yougoslavie que les Bleus débutaient leur campagne et ils ont fait le job plus ou moins face à une équipe monténégrine assez surprenante. Succès dans la douleur 73-67 pour les hommes de Vincent Collet. Deuxième rendez-vous du rassemblement, c'était hier soir contre la Hongrie. Une rencontre mieux négociée par les partenaires de Louis Labéry qui l'emportèrent aisément 78-54. Des débuts de qualif pour le mondial plutôt réussis donc pour les vice-champions olympiques.
Et on va passer à la grosse page consacrée au football. On va d'abord parler du championnat de France et de la Ligue 1 qui a vu ce week-end la 15e journée. Lille et Nantes se sont quittés dos à dos, un partout. Metz a réalisé le gros coup de cette 15e journée en battant les Niçois 1-0. Paris a une fois de plus gagné face à Saint-Etienne 3-1. À noter une très grosse blessure de Neymar qui serait absent a priori 6 à 8 semaines. Rennes qui continue son petit bonhomme de chemin en haut du podium, puisque les Rennais sont deuxième après cette victoire face à Lorient 2-0. Clairement, on y arrive de moins en moins avec cette défaite face à Reims, 1-0. Bordeaux est battu par Brest, victoire des Brestois 2-1. Monaco et Strasbourg font match nul 1-1. Lyon bat Montpellier par le plus petit des écarts 1-0, tout comme l'Olympique de Marseille qui a battu 3 1-0 également. Demain, il y a une nouvelle journée de championnat de France, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, avec trois matchs principaux. Paris recevra Nice, Rennes recevra Lille et l'Olympique de Marseille se déplacera à Nantes. Cette semaine, on a aussi eu une semaine de Ligue des Champions avec des clubs français qui sont d'ores et déjà qualifiés. Lille a battu le RB Salzbourg, pardon, le club autrichien, et donc se sont donné les moyens d'arriver premier de leur poule. Et le Paris Saint-Germain, par contre, a perdu face à Manchester City 2-1. Les Parisiens sont également qualifiés, mais en deuxième de leur poule. Et puis, tant qu'on parle de compétition européenne, on va également parler de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille est éliminé de la compétition après sa défaite 4-2 face à Galatasaray, mais les deux autres équipes en lice, à savoir l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, seront eux qualifiés pour le prochain tour.
On va terminer avec du rugby. On va parler des résultats du top 14 de la 11e journée. La journée commençait par notamment le match entre Montpellier et Castres. Ce sont les Montpelliérains qui ont arraché la victoire 25-24 face aux Castrais. Ensuite, parmi les résultats notables, on a eu une très belle victoire de La Rochelle qui s'est imposée à domicile 36-8 contre Pau. Ensuite, Lyon est allé perdre du côté de Toulon 19-13. Les Toulonnais qui se donnent un peu d'air puisqu'ils étaient dans le bas du classement. Et puis Toulouse a également un peu galéré du côté de la réception de Brive, victoire finalement 18-11. Et puis le match de dimanche, c'était Bordeaux-Bègles, qui allait du côté de la région parisienne et pour y défier le Racing 92. Et finalement, ce sont les Bordelais qui l'ont emporté 37-14. Au niveau du classement, Toulouse réaffirme son rôle de leader du championnat devant Bordeaux-Bègles. Et puis dans le bas du classement, les relégables sont pour l'instant Perpignan et Biarritz, mais Toulon et le Stade français ne sont pas loin puisqu'ils sont 11e et 12e respectivement. Voilà, c'est la fin de ce 1-2. On va pouvoir marquer une petite pause pour pouvoir respirer un coup, et puis on se dit dans quelques minutes. Max, qu'est-ce que tu nous as préparé?
Eh bien, avant de parler Ballon d'Or, on va s'écouter une petite musique d'AC/DC. On va s'écouter Are You Ready? J'espère que vous êtes prêts, en tout cas pour le moment, qui va arriver, puisqu'on va parler Ballon d'Or, Alex.
Et oui, effectivement, on est de retour dans Génération Sport. On va parler de l'actu chaude du moment, puisqu'hier soir était décerné ce fameux Ballon d'Or, très attendu sur la planète foot. Un Ballon d'Or qui a été remis à Lionel Messi, l'Argentin du Paris Saint-Germain, qui a remporté donc son 7e Ballon d'Or. À noter que c'est son premier en dehors du FC Barcelone. Il a devancé Robert Lewandowski et Jorginho. Alors, le classement, je ne sais pas si on va évoquer tous les 30 nommés, mais on pourra notamment parler du top 10. Enfin bref, on va voir un peu comment on va débattre. Mais en tout cas, on va parler d'abord de cette élection de Lionel Messi. Évidemment, un peu plus tard dans le débat, on reviendra sur les autres remises de trophées qui a lieu pendant la soirée, parce qu'il n'y a pas eu que le Ballon d'Or, et c'est important de parler des autres trophées. On va parler de celui qui a été élu, donc pour la 7e fois à Ballon d'Or, Lionel Messi. Question toute simple, même si c'est vrai que on peut rien y faire entre guillemets. Est-ce que selon vous, c'est un Ballon d'Or qui est mérité par Lionel Messi aujourd'hui? Ne vous bousculez pas, allez-y. Hein.
Non, je laisse la parole à Cédric.
Non, pour moi, non, clairement pas.
Clairement pas.
Au vu de sa saison, qui fait son seul fait marquant, c'est quoi? C'est son match de la finale de la Copa. À Barcelone, on peut pas dire qu'il a fait une grosse saison. Quand on voit comment ils se sont fait éliminer en Coupe d'Europe, le championnat, c'était pas ça. Les bruits de couloir aussi, comme quoi il faisait un peu des kékés nerveux, des choses comme ça. Alors, normalement, ce genre de choses, ça prend pas part dans les décisions pour qui tu votes, mais forcément, ça peut t'influencer. Parce que dans ces cas-là, ce que ça prouve, c'est que on voit bien le degré de niveau en fait de la façon que ça peut être voté, c'est-à-dire que on met au-dessus largement, on va dire la Coupe d'Europe et la Copa América. Ensuite, on met la Coupe d'Europe, et puis ensuite les championnats. Et si on doit élire le meilleur joueur, il faut techniquement qu'il soit bon dans ces 3 ou 4 paramètres. Mmh. Et pour moi, Messi n'était pas le plus complet, quoi.
Max, est-ce que tu partages cet avis ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, toute personne qui s'y connaît un peu en football et qui est un minimum objectif peut dire avec certitude que ce Ballon d'Or est pas du tout mérité. Cédric en a déjà parlé, mais c'est vrai que Messi il gagne pas le championnat. Au-delà de ça, le Barça est ridicule en championnat. En Ligue des Champions, ça fait 5 ans que le Barça, il passe pour des clowns. L'Europe entière voit le Barça comme une équipe de clowns, et ça a encore été le cas. Pendant la cérémonie du Ballon d'Or, on a vu, hein, il a mis un splendide but face au PSG. On l'a vu. Hein. C'est le seul but exceptionnel qu'il a mis cette saison. J'abuse un peu peut-être, mais on a vu ce clip 30 fois. Apparemment, ça portait vraiment beaucoup pour cette cérémonie. Il a gagné la Copa, on peut pas lui enlever. Il a été élu meilleur joueur du tournoi ex aequo avec Neymar, et au contraire de Cédric, moi justement sa finale, je l'ai pas trouvé quoi. Sur le tournoi, il est bon, hein, y a rien à dire. Contre le Venezuela, il est excellent. Hein, contre des équipes où personne connaît la capitale, vraiment il est excellent. Non, mais c'est la vérité. Et oui. Contre le Brésil en finale, encore une fois, c'est un Di Maria qui sauve les fesses de l'Argentine et du PSG. Mais ça, c'est un autre débat. Et ouais, Messi, il a fait une finale en dedans. Il a eu un ou deux face-à-face qu'il a raté, mais on lui en voudra pas de rater des face-à-face. Moi, je lui en veux de pas être présent dans ces matchs-là, dans ces matchs à importance, avec d'une importance capitale. Et malheureusement, Messi, ça fait 3-4 ans qu'on le voit plus sur ces très très grands matchs-là. Donc oui, il mérite pas ce Ballon d'Or, parce que derrière, pour moi, les trois qui suivent méritent plus le Ballon d'Or que lui. Et ouais, c'est dommage, parce qu'on permet pas le Ballon d'Or, qui est censé récompenser au-delà d'une saison une carrière. Mm-hmm. Et on en parlera, hein, Lewandowski et Benzema, qui ont tous deux une saison exemplaire de leur côté. On va pas revenir en détail sur leur saison, mais qui auraient mérité rien que sur la saison ce ballon d'or, mais qui en plus, eux, avec leur carrière, auraient mérité une récompense comme ça.
Ultime.
Donc voilà, évidemment, déçu du résultat, mais pas surpris, parce que malheureusement, on sait que le ballon d'or, c'est pas une cérémonie objective, et que c'était acté depuis quelques mois que Messi allait remporter ce septième ballon d'or.
Moi, je vous rejoins, messieurs, sur effectivement, je trouve à titre personnel que ce n'est pas très mérité. Parmi les faits marquants, effectivement, Lionel Messi, il y a ce côté cette Copa qu'il a plutôt réussi, à part la finale, ce qui est quand même quelque chose de primordial quand on veut gagner un trophée, c'est d'être présent en finale. Et puis il y a un côté, enfin, les seuls faits marquants également, c'est qu'il est meilleur buteur de Liga. Ça, effectivement, on peut lui accorder ça, mais c'est trop peu pour un ballon d'or, surtout quand on voit ce que font les deux autres derrière, les deux autres attaquants, Karim Benzema et Robert Lewandowski. Déjà, il y a un autre fait aussi, c'est que ça récompense l'année civile, l'année 2021 civile, et donc ça comprend le début de saison 2021-2022, et là, il y a absolument pas photo sur le fait que Messi n'est plus du tout.
Mec, il a mis un but en 15 matchs quand même.
Il a mis un but contre le FC Nantes.
Non, mais un but en 15 matchs, si ça c'est pas niveau ballon d'or.
Non mais voilà, et c'est quand même très triste. Et quand tu vois Robert Lewandowski qui est, je crois, à 14 buts en championnat, il y a Benzema qui a, je crois, 11 ou 12 buts. Ils font parler d'eux en plus, toujours. Et Messi, depuis la demi-finale du coup de Copa América, on n'a pas vu faire un bon match, on va dire. Peut-être que je suis un peu dur là-dessus, mais...
Non, non. Pardon. Alors Alex est en train de s'étouffer. C'est quand il parle de Messi, ça y est.
Je m'énerve un petit peu, mais non, non. Mais voilà, effectivement, il y aura toujours des fans de Messi pour le défendre. Hein. Évidemment, on les comprend, il a accompli tant de choses. On n'attaque pas la carrière, on attaque l'année 2021 de Lionel Messi.
Voilà.
Mais voilà. En tout cas, on va pas non plus revenir dessus. Je pense qu'on, vu qu'on est tous les trois d'accord.
Après, en plus, le seul élément qui peut le défendre dans ce début d'année, c'est vrai que le calendrier en ce début de saison a été compliqué, puisqu'il faut bourrer les matchs en sélection, puisqu'il y a cette fameuse Coupe du Monde qui arrivera dans un an maintenant.
Ouais, ouais.
On a dû passer la date butoir des un an, là, je pense.
Ouais, c'est ça.
Donc ça n'a pas aidé non plus à ce qu'ils soient performants, par exemple avec le PSG, puisque quand tu fais limite un match avec eux et derrière que tu enchaînes trois matchs avec la sélection, tu reviens pendant deux semaines, tu repars. C'est vrai qu'en termes de qualité de jeu d'équipe, c'est difficile pour lui de s'adapter. Là, je trouve qu'il y a quand même un petit mieux depuis un moment là, mais c'est pas encore
ça. C'est pas le Messi qu'on connaît, voilà, si tu veux. C'est pas le Messi des 6 précédents Ballon d'Or. Donc c'est vrai que c'est assez dommage de le voir à ce niveau-là. Bon, voilà, effectivement, on va finir un peu sur Lionel Messi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il méritait d'être au moins dans le top 10.
Oui, forcément. Voilà, c'est ça. Faut pas non plus dire que il devait pas être nominé et tout. Enfin bref, voilà. Il mérite au moins un top 10.
Oui,
peut-être un top 5 pour certains qui seraient pareil assez gentils avec lui. Mais ça reste une saison pour Messi en tout cas assez je vais pas dire décevante, mais en tout cas en deçà de ce qu'il est capable de faire et en deçà également de ceux qui sont derrière lui, entre donc Robert Lewandowski, Benzema et Jorginho. Messieurs, on a compris que Messi n'est pas notre favori. Vous auriez mis qui du coup votre top 3 des joueurs qui sont derrière Messi? Vous auriez mis qui en top 3, peut-être pas dans l'ordre, ou peut-être déjà en ballon d'or, vous aurez donné à qui? Et voilà, peut-être que vous aviez un autre idée de joueur qui vous a marqué. Cédric.
Lewandowski,
ballon d'or.
Ballon d'or, oui.
Déjà.
Pour les deux saisons qui.
Ouais, déjà aussi.
Qu'il a fait.
Il le méritait en 2020 également.
En 2020, il le mérite. En tout cas, il faisait partie des favoris.
Ouais.
Il a confirmé, je trouve, sur cette année-là. Il fait peut-être pas une excellente coupe d'Europe, mais voilà, en équipe nationale, il sait être là, il sait quand même se mettre au service de son groupe, malgré que là, il n'y a pas forcément les résultats. Mais je trouve que voilà, en termes de qualité, Il faisait un très bon ballon d'or parce qu'on voyait le côté buteur en club qui est de côté aussi. Bah voilà, je sais me sacrifier. Enfin, donc pour moi, ça m'aurait pas choqué qu'il soit ballon d'or cette année, quoi.
Max.
En vrai, c'est une question un peu difficile parce que pour moi, Lewandowski, Jorginho et Benzema, si l'un des trois aurait gagné ce ballon d'or, on n'aurait pas pu crier au scandale.
Voilà.
Pour des raisons différentes. Benzema, bon bah individuellement et collectivement parlant, il a fait une saison stratosphérique. Même en équipe de France, voilà, il y a eu son retour en équipe de France. Malheureusement, il y a un manque de titres. Alors oui, il a gagné avec des nations, mais on s'en fout.
Il est honnête au moins. Il les cache, il est honnête.
Donc voilà, c'est une compétition qui reste une compétition mineure hein, à l'heure actuelle. Donc c'est un des premiers points qui peut dire bon bah Benzema mérite pas forcément le titre et le Ballon d'Or, est-ce qu'il peut être entendu et entendable. Lewandowski qui pareil lui a un manque de titres, mais ça fait deux. Là, il y a la saison dernière, il gagne la Ligue des Champions. La saison dernière pour une raison complètement stratosphérique, personne ne sait pourquoi il n'y a pas eu de ballon d'or.
Officiellement, c'est parce qu'il n'y avait pas assez
de trucs équitables.
Équitables.
Oui, bon.
Parce que du coup,
c'est vrai que l'équité est bien présente cette année.
Par exemple, du coup, les championnats français, enfin le championnat français a été l'un des championnats qui s'est arrêté, qui n'a pas été à son terme, et du coup, ça aurait créé une injustice. Mais bizarrement, c'est remis par des Français. Bizarre.
Bon bref, voilà, on va pas revenir sur le passé, mais on en parlait avec Cédric juste avant l'émission, et dans l'histoire, il y a eu deux ballons d'or d'honneur qui ont été remis. Alors à Maradona et à Pelé, mais ça aurait pu être aussi une option, donner un ballon d'or d'honneur à Lewandowski qui unanimement le méritait. Il n'y a pas un joueur qui s'asseyait à la table de Lewandowski l'année passée.
Ah non.
D'ailleurs, Messi dans son discours,
il le dit,
ça a été quasiment dans les premières paroles. Il a su reconnaître.
Mais ça montre que Messi s'y connaît un petit peu au foot quand même.
Il sait être objectif. Donc voilà, Lewandowski l'aurait aussi mérité cette saison parce que je crois il met 65 buts en une année civile.
Il bat le record de Gerd Müller en Bundesliga qui était depuis 40 ans.
Je crois qu'il avait mis 40 buts en une saison, Gerd Müller.
Monstrueux.
Voilà, et puis l'autre troisième, c'est Jorginho qui. Moi, quand on me dit qui est le meilleur footballeur de l'année, pour moi, le football, c'est un sport collectif. Les deux grosses compétitions de l'année, c'était la Ligue des Champions et l'Euro. Il a gagné les deux. Et puis, il n'a pas un rôle minime à chaque fois. Il marque des pénaltys décisifs. Il a un rôle de milieu de terrain excellent. Donc, pareil, c'est un joueur qui ne m'aurait pas du tout surpris avec ce ballon d'or entre les mains. Malheureusement, ces trois joueurs, on n'a pas voulu les récompenser. On a voulu récompenser Messi, qui fait une saison très moyenne, encore une fois. Et ouais, en vrai, c'est...
Mais je pense que ça aurait été une victoire en Coupe du Monde.
Il y aurait eu plus d'impact,
Il y aurait plus d'impact qu'une victoire en Coupe d'Europe.
Ouais, peut-être.
Et quand tu regardes souvent les années de Coupe du Monde, c'était pas forcément des Messi, Ronaldo qui crossaient le...
L'année 2018, Varane, il gagne la Coupe du Monde, la Ligue des Champions.
Par contre, oui.
Et même si j'ai un avis critique sur Varane, cette année-là, il est trop fort.
Injouable,
il est injouable et je crois qu'il finit au-delà du top 5 du Ballon d'Or.
Le problème sur Varane, c'est que c'était pas un attaquant.
C'est ça.
Mais tu le vois aujourd'hui, enfin sur le classement, les défenseurs sont pas très bien ou alors mal représentés parce qu'il y a des incohérences.
On va en parler mais il y a des dingueries.
Après, d'un côté, moi personnellement, au-delà du top 10, perso, j'accorde pas trop d'importance sur ça parce qu'en fait, c'est vu comment sont les votes. En gros, c'est donc des journalistes. Alors après, on savait pas trop qui votait, mais en gros, c'est un top 5 qui accorde des points à chaque joueur et en gros donc effectivement on voit notamment Bonucci, Chiellini qui sont très hauts alors qu'ils ont fait une saison catastrophique avec la Juventus, etc. Mais et il y a aussi du coup ce souci d'ordre, on va dire, parce qu'on voit Rubén Dias, on voit Azpilicueta qui font des très bonnes saisons, qui sont derrière ça. Bref, on va pas trop revenir dessus.
César Azpilicueta, il a eu 0 points.
Il a 0 mec qui lui a mis même
et Rubén Dias 1 point.
Voilà, donc c'est assez dommageable, on va dire.
Avant
il y a deux joueurs qui ont eu 0 et 1 point.
Oui,
et ils ont réussi à faire une égalité.
Il y a deux joueurs à 0 point et deux joueurs à 1 point.
D'accord, oui, parce que j'allais dire, ils ont fait double. 29 pour présenter les choses.
Justement, on n'a pas évoqué ce top 10 avant de changer de ballon d'or. On va parler du ballon d'or féminin. Donc le top 10, il y a beaucoup de joueurs du PSG. Ouais.
Peut-être.
Il y a Gianluigi Donnarumma, 10e, Kylian Mbappé, 9e, Kevin De Bruyne en 8e position, Mohamed Salah, 7e, Cristiano Ronaldo, 6e, N'Golo Kanté, 5e, Benzema, 4e, Jorginho, 3e, Lewandowski, 2e, Messi, 1er. On a quand même 3 Français dans ce top 10. Est-ce que... Bah, je pense que leur place à tous les trois est méritée dans le top 10 en tout cas.
Déjà, alors j'ai pas pu le dire apparemment, puisque bon, on parle. Mais du coup, parce que moi je me suis pas exprimé sur mes pronostics à qui je l'aurais donné.
Ah.
Si ça avait été un choix du cœur, si j'avais été subjectif, évidemment.
Ça aurait été Sterling.
Non, je l'aurais donné à un certain Karim Benzema. Mais évidemment. Si on doit avoir un regard d'objectivité, pour moi, Robert Lewandowski, voilà, déjà, tu dois aussi le récompenser de son année 2020 et de son année 2021 qui est très bonne aussi. Jorginho, peut-être, je l'aurais mis en top 3, mais peut-être pas Ballon d'Or. Bon, bref, après, c'est selon, mais Lewandowski, objectivement et subjectivement, un certain Karim Benzema. Oui, donc tu disais le top 10, donc avec notamment donc 3 Français, c'est déjà une bonne chose, c'est même, j'ai envie de dire, encourageant pour la suite de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on pense de ce top 10? Est-ce qu'il y a pour vous des incohérences ou pas trop?
En tout cas, les joueurs qui y sont, c'est pas incohérent. Après, leur position, que ce soit 6e, 7e,
voilà, ça importe peu.
Pas très très incohérent.
La seule chose qu'on retiendra de cette année, ce sera le premier et le deuxième.
Oui, clairement, parce que après il y a un écart de points assez intéressant, important.
Même sans parler de points, mais juste sur l'impact que ça aura eu. Après ce qui est le plus étonnant, c'est que on retrouve quand même des habitués du haut du classement.
Ouais.
Et il y a quand même eu une grosse surprise, un absent notable quand même du top 10. Neymar qui se retrouve 15e ou 16e, je crois.
Bah, c'est pas incohérent, mais c'est surprenant parce qu'il a fait une mauvaise saison, on va dire.
Ouais, mais qu'il soit aussi loin, par contre, du top 10.
Bien sûr, bah, on verra.
C'est là que c'est très bizarre. Il a joué une finale de Copa América.
Ouais.
Et il se retrouve éloigné.
Et s'il avait gagné.
Oui, et par exemple, Ronaldo qui a fait une saison. En dessous, qui gagne quasiment rien cette saison-là, et plus haut dans le classement. Donc c'est là qu'on voit que.
Après, on le sait aussi qu'il y a des joueurs qui sont là pour leur nom.
Oui.
Cristiano, individuellement, il a rien fait cette saison, il a rien gagné.
Meilleur buteur de Serie A quand même.
Ouais, un championnat.
Meilleur buteur de l'Euro.
Un championnat qui fait. Bref, je vais pas m'étendre sur le sujet de la Serie A, mais un mauvais championnat. Il fait un Euro très moyen. Enfin bref,
on va pas se.
Oui, mais meilleur buteur, mais il s'arrête en
huitième de finale. Collectivement. En fait, pour moi, le problème de Ronaldo, c'était.
Et même,
fois,
c'est plus le Cristiano d'il y a 2-3 ans.
Engagé, oui. Forcément, il a quand même 37 ans.
Bref, on va.
Enchaîner.
On va clore le lauréat masculin du Ballon d'Or. On va parler très vite fait, et là, il n'y aura pas beaucoup de débats, messieurs. On va parler du Ballon d'Or féminin qui a été remis à Alexia Putellas, l'Espagnol qui joue au FC Barcelone. Capitaine du Barça qui personnellement j'ai pas suivi sa saison, mais j'ai pas vu de débat par rapport à ça. Est-ce que tu aurais vu quelqu'un d'autre peut-être, Alex?
Je sais pas, mais en tout cas on peut remarquer en tout cas que le Barça féminin a été beaucoup récompensé dans le classement. Faut savoir que Jennifer Hermoso est juste derrière, donc à la deuxième place. Il y a Lieke Martens, je crois qu'elle est hollandaise, et elle est à la cinquième place. Et voilà, c'est une équipe qui a brillé, surtout qui a remporté la Ligue des Champions. C'est clairement ce qui fait gagner les joueuses des Ballons d'Or, on va dire. C'était le cas de Ada Garberg en 2018 pour le premier Ballon d'Or. Megan Rapinoe en 2019, c'était plus.
Il y avait eu la Coupe du Monde féminin.
Ouais, voilà, il y avait la Coupe du Monde, donc oui, ça a énormément joué. Donc voilà, on va pas trop s'étaler sur le sujet parce que malheureusement nos compétences en football féminin sont peut-être un peu limitées. On devrait d'ailleurs peut-être commencer à s'y mettre, mais en tout cas voilà, on peut parler des Françaises peut-être qui ne sont pas dans le top 15, donc c'est vrai que c'est une petite déception. Peut-être que je dis une bêtise, non, c'est ça, pas de Françaises dans le top 15.
Wendy Renard, je crois qu'il était nominé.
Ouais, c'est ça, Wendy Renard et Marie-Antoinette Katoto et Kadidatou Diani qui ne sont pas donc dans le top 15. Bon voilà, une petite déception, mais peut-être que l'année prochaine on pourra voir ça si le PSG et Lyon font des bons résultats en Ligue des Champions, parce que ça a l'air d'être une compétition qui compte beaucoup.
En termes de décision, ça semble
logique
apparemment, d'un point de vue sportif, complètement, voilà quoi,
sur son championnat et sa sélection.
Lors de cette soirée, il y a également eu la remise du trophée Copa qui représente le meilleur joueur de moins de 19 ans, 21 ans, je sais plus. Bref, le meilleur jeune joueur. Il a été décerné à l'Espagnol Pedri. Bon bah là pareil, aucun débat, je pense que c'était c'est le joueur qui le mérite le plus hein, tout simplement, qui a fait un marathon clairement du football, qui a joué avec le Portugal, n'importe quoi.
C'est l'Espagne.
Avec l'Espagne, avec le Barça, qui a fait l'Euro, qui a fait les Jeux Olympiques, enfin qui a tout fait, et ouais, même qui a eu un niveau vraiment excellent pour son âge cette saison. Donc on va pas trop revenir dessus parce que je vois que le temps presse. Le trophée qu'on risque d'aborder un peu plus en profondeur, c'est le trophée Yashin qui a été remis également, donc qui est là pour récompenser le meilleur gardien de l'année. Et sans grande surprise, c'est Gianluigi Donnarumma qui a été sacré donc trophée Yashin. Et derrière lui, on retrouve Edouard Mendy. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Est-ce que c'est mérité pour toi? Est-ce que c'est mérité pour toi?
Gianluigi Donnarumma, c'est un gardien que j'aime bien de base. C'est pas, moi je trouve que c'est un gardien très prometteur qui a toujours montré une certaine maturité pour son jeune âge. Faut savoir que il a, pour le coup, moins de 22 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un jeune joueur qui a tout de suite montré sa maturité. Malheureusement, il y avait un autre gardien qui méritait, selon moi, d'être à sa place. C'était Edouard Mendy qui a complètement brillé et complètement porté Chelsea. On parlait de l'année civile complète. Il fait un début de saison incroyable avec Chelsea, qui est leader de Première Ligue. Il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. C'est une année incroyable. Malheureusement, sûr et certain que l'Euro a beaucoup compté, puisque Gianluigi Donnarumma a été le meilleur joueur de l'Euro et que il a gagné l'Euro et que ça a beaucoup compté et que malheureusement Edouard Mendy n'a pas disputé de Cannes cette année. Un peu dommageable de pas récompenser Edouard Mendy qui a fait un très gros travail. On avait déjà parlé de ça en évoquant la liste des nommés, mais en tout cas voilà, c'est une injustice de plus dans cette soirée de récompense.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais même pas quoi dire en fait, parce que pour moi il y a pas photo en fait hein. Quand on regarde les matchs de Donnarumma et ceux d'Edouard Mendy, franchement on voit les matchs, on voit surtout les stats. Edouard Mendy, c'est le gardien au monde qui a pris le moins de buts en un an. Il gagne la Ligue des Champions, il se révèle aux yeux du monde. Il fait un match contre le Real Madrid notamment en demi-finale, où il est stratosphérique, et Donnarumma il gagne l'Euro avec deux séances de tir au but. Donc voilà, je trouve ça vraiment, pour moi c'est un scandale parce que et t'as parlé de ceci explique cela. Je pense qu'il y a une raison qui est bien connue de tout le monde.
Oui.
Et je vous invite à regarder une photo d'Edouard Mendy, une photo de Gianluigi Donnarumma sur Google, et malheureusement vous vous rendrez compte du pourquoi, du comment. C'est malheureusement un élément qui ne doit pas rentrer dans le débat, qui ne doit plus rentrer dans le débat depuis des années, des dizaines d'années malheureusement. Je pense aujourd'hui ça a malheureusement influencé les votes. Et il y a aussi le fait que Donnarumma ait rejoint le PSG. Pour moi, ça y joue grandement.
Ah ouais ?
Parce que quand on voit le nombre de joueurs déjà à la cérémonie du Ballon d'Or, il y avait que les joueurs du PSG.
Bah après, ils habitent. Enfin, la cérémonie est à Paris, donc ça.
C'était le Paris Saint-Germain Football Club Ballon d'Or. Il y avait tous les joueurs de Première Ligue ont boycotté la cérémonie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais cette cérémonie.
C'est pas vraiment un boycott, c'est que t'as la.
Alors oui, ils nous ont parlé du Covid.
T'as la quarantaine.
Oui, mais ils nous ont parlé du Covid. Bizarrement, ça n'a pas empêché notre ami Mohamed Salah de se rendre à Monaco le même soir pour une remise d'un autre trophée un peu bidon. Bref, Ronaldo qui n'a pas dit qu'il n'était pas venu à cause du Covid, mais bien parce que il avait embrouillé le rédacteur en chef de France Football. Voilà, c'est une cérémonie qui malheureusement aujourd'hui
est dérisoire. Ils le savent à l'avance.
Ils savent.
Donc si tu veux, si c'est juste pour venir bravo, je comprends ouais. aussi les joueurs de, ils vont ouais. pas faire un aller-retour juste pour
la soirée était en tout cas moi j'ai pas pu la voir, mais apparemment la soirée était assez ridicule
t'as rien raté hein, franchement ouais, ouais.
Est-ce qu'on fait un dernier point sur le Ballon d'Or avant de se remettre une toute petite pause musicale et de revenir pour 5 minutes et parler tennis avec Coupe Davis?
On a encore deux titres à évoquer.
Ouais, des nouveaux titres.
Des titres
sortis. Est-ce qu'on a besoin d'en parler beaucoup? Ouais, enfin, c'est très bizarre parce que meilleur club, donc c'est meilleur club et meilleur buteur. Enfin, voilà, meilleur buteur, bah, c'est des statistiques, donc il n'y a pas vraiment de vraies récompenses. Enfin, bref, c'est assez bizarre. Bon, donc, effectivement, c'est Lewandowski qui l'a gagné. Donc, je pense que c'était l'argument pour le faire venir et mettre un peu de suspense. Et puis, donc, meilleur club, Chelsea qui a gagné avec champion, tout simplement. Enfin, voilà.
Chelsea a été élu meilleur club parce qu'ils ont eu le plus grand nombre de joueurs qui ont été nominés dans toutes les catégories. C'est ça la vraie raison.
C'est vrai?
Ouais. Apparemment, ce serait comme
l'entraîneur a été nominé. Il y a eu Edouard Mendy, même il y a plein de joueurs de Chelsea. Tourelle a été nominé dans les meilleurs entraîneurs.
Qui a gagné le trophée?
Et justement, c'était la question que je me suis posée.
Bah ouais.
Qui a gagné le trophée du meilleur entraîneur?
Mais est-ce qu'il y a toujours ce trophée?
On l'a pas vu en tout cas en direct. Hein.
Je crois pas qu'il y a ce trophée. Hein.
Il a été. C'est sûr qu'il y a eu le trophée, c'est sûr et certain. Mais il n'a pas été remis en direct.
Ok, d'accord. Eh bien, bah voilà, mais effectivement, bah c'est sûr que Chelsea a fait une grosse saison. Ils ont un gros effectif. Franchement, voilà, il y avait pas de doute là-dessus. C'est comme le Bayern en 2020. Voilà, on savait que c'était la meilleure. Bon, il y avait pas trop de suspense là-dessus. Donc voilà, je sais pas si on peut rajouter d'autres choses sur le Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai que le temps presse.
Il serait juste temps que France Football revoie peut-être la formule aussi bien pour les votes.
Si on peut conclure là-dessus, ouais.
Et puis sur l'organisation, enfin faire une grosse soirée comme ça, ça m'a fait rire. Il y avait Kev Adams, excusez-moi, mais Kev Adams, qu'est-ce qui vient faire une cérémonie comme ça?
C'est vrai qu'il adore le football.
Il y avait deux acteurs de Spider-Man qui étaient là.
Ouais, c'est
encore, ouais. Ils auraient remis le prix, je comprends, pourquoi pas. Mais par exemple, même la collaboration avec Alpine, et du coup, qu'on fait venir les deux pilotes de F1 juste pour faire une animation, on emmène en voiture dans une Alpine les deux ballons d'or. Faites pas un show à l'américaine, faites un truc comme c'était tout simple
voilà,
avant.
Donner le ballon d'or à celui qui annonçait déjà. Et puis...
Qu'ils fassent une mini cérémonie télévisée pour l'annoncer, comme ils avaient fait. Une année, je crois que c'était à la Tour Eiffel, où c'était Ronaldo, je crois, qui était apparu, ou Messi, je sais plus. Voilà, faites des choses un peu dans ce style-là, et puis, limite, on aura autre chose à faire de nos soirées que d'attendre des heures et des heures juste pour voir des gens sur des sièges, et après qu'ils vont aller manger des petits fours, et puis qu'ils seront malades le lendemain, et qu'ils iront pas à l'entraînement.
Ouais. On va passer à une petite pause musicale, puis après on terminera sur un petit débat sur la Coupe Davis si on a le temps.
Oui, on va très rapidement s'écouter un nouveau titre d'Orelsan qui a sorti son album récemment. On va écouter le titre Seul avec du monde autour.
Dommage, je vais rater quelques mèmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. J'habitais dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans, où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais je viens de prendre une maison près de Caen, où ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges en chaussons dans mes crocs.
Et oui, on vous avait prévenu que la pause musicale allait être courte. Le temps pour notre équipe de boire une petite gorgée d'eau. Et puis on va entamer le sprint final, puisqu'on va parler de la Coupe Davis, Alex.
Et oui, une Coupe Davis qui fait son grand retour, enfin son petit retour, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement. La Coupe Davis, qui est une compétition, je rappelle, internationale, avec qui regroupe les équipes dans ce sport à majorité évidemment individuelle. Et donc c'est une compétition qui, je n'ai pas la date en tête de la création, mais qui est historique, qui autrefois était basée sur le système de match dans laquelle une équipe recevait une autre. Voilà, il y avait plusieurs tours dans l'année, 4 à 5 tours, et puis on avait la finale. à peu près à cette période de l'année, en début décembre. Et en 2019, il y a la société notamment de Gérard Piquet qui a décidé de tout simplement de pas de racheter les droits, mais en tout cas de modifier complètement la formule de la Coupe Davis pour la rendre plus attractive et surtout se faire un maximum d'oseille. Déjà apparemment c'est pas trop le cas, mais surtout il y a une première édition 2019 qui a été un fiasco. Victoire des Espagnols en Espagne, puisque le tournoi se déroulait que en Espagne, et donc je vais vous parler un peu de la nouvelle formule. Sur une semaine, toutes les nations sont réunies, enfin sur une dizaine de jours, toutes les nations sont réunies, elles s'affrontent, il y a des groupes, ensuite il y a des quarts de finale, demi-finale et finale, dans la même semaine, en tout cas dans les 10 jours, et voilà, tout le monde doit se départager, évidemment, donc voilà, c'est dans un seul lieu, donc comme ça respecte une certaine équité, évidemment, puisque les Espagnols, je le disais, ont gagné à domicile. Là, ils ont voulu un peu diversifier pour 2021, puisque c'est dans 3 villes différentes, sauf qu'il y a une ville qui a été à huis clos, donc parfait encore pour l'équité.
En Autriche, oui.
Voilà, Innsbruck en Autriche. Et puis, voilà, effectivement, ce dernier carré qui se joue, je crois, effectivement, à Madrid. Pour le coup, l'Espagne n'est pas qualifiée pour les quarts de finale. On va faire un petit point. La Russie affronte la Suède, la Grande-Bretagne affronte l'Allemagne, la Croatie a battu d'ores et déjà l'Italie, et puis la Serbie affronte le Kazakhstan. Messieurs, rapidement, évidemment, je m'étale un peu. Qu'est-ce que vous pensez, quelle était votre réaction déjà quand vous avez appris ce nouveau format il y a de ça 2 ans, c'est quoi ça a été quoi votre réaction?
En fait, c'est le monde du football qui vient dans le monde du tennis, c'est un truc qui sert à rien. Ça arrive en fin de saison, les tennisman, ils ont une saison complète dans les jambes. Il y a aucun grand nom qui joue la Coupe Davis, que ce soit en France ou dans les autres pays. Tout le monde s'en fout, c'est juste pour faire de l'oseille. En plus, dans les années qui vont venir, ce sera pour parler de déplacer ça aux Émirats Arabes Unis, voilà, ou en Arabie Saoudite.
C'est déjà prévu.
C'est déjà même officiel. Donc
pour 5 ans, je crois.
On peut rien. En fait, on peut rien rajouter. C'est le monde du foot qu'ils avaient pas dans le monde du tennis. C'est insupportable. C'est insupportable.
Gérard Piqué aurait peut-être mieux fait de s'intéresser à ses performances au Barça qu'au tennis.
Que tu es taquin.
Je trouve que la réaction qui a bien résumé la situation, c'est la réaction de Marion Bartoli.
Ouais.
Qui a dit, moi ça me pose pas de problème, qu'il vienne avec son argent, qu'il injecte de l'argent dans le tournoi, qu'il essaye de faire une nouvelle formule, mais qu'il fasse une formule qui soit compréhensible. Et quand on connaît pas un milieu, eh ben on s'entoure de gens qui connaissent le milieu. Et là, ce format de compétition, hein, le lundi, tu vas jouer à pas tous les ombrelles, et puis le mercredi, il faut que tu ailles jouer ailleurs, et puis après.
C'est vraiment horrible.
En plus, en période de Covid, excusez-moi, mais on réunit soit deux villes proches ou dans un seul pays.
Là, du coup, c'est à Turin, Innsbruck et Madrid, et c'est vrai que c'est assez incohérent. Et surtout, on perd, pour moi, en tout cas, surtout l'essence même. Effectivement, il faut penser aussi aux joueurs qui jouent beaucoup de matchs dans l'année, mais il faut penser aussi aux supporters qui avaient l'habitude d'assister aux matchs, aux rencontres à domicile. Il y avait une belle ambiance, il y avait une vraie communauté de tennis qui se rassemblait. Moi, j'ai des proches qui étaient dans notamment le COP bleu. Il y avait un petit groupe de supporters bleus qui s'organisaient pour aller notamment, je me souviens, en Serbie en 2011, pour aller aux finales où qu'ils ont gagné notamment en 2018. Enfin bref, il y avait de très belles choses qui étaient mises en place. Et malheureusement, on retrouve plus du tout cette ferveur.
Parce que même médiatiquement,
on n'en a pas du tout entendu parler.
Il n'y aurait pas eu l'interview de Bartoli, j'étais pas au courant que ça se jouait.
Voilà, ça. Moi, j'ai vu un article passer vite fait sur les réseaux sociaux et c'est tout. Et ça m'a rappelé qu'il y avait la Coupe Davis. Et voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On va clôturer cette émission puisque le temps presse. On vous remercie de nous avoir écoutés sur le 101.5 FM de Radio G. À noter également que samedi prochain soir, il y a le combat de Georges Tinori, le boxeur angevin qui combat. Si vous voulez gagner des places pour ce combat, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le Instagram de Radio G, Génération Sport. De Radio G et Génération Sport. Et puis vous pouvez gagner des places. Vous pouvez donc faut liker et commenter. Et puis si vous pouvez lâcher un petit follow, ça fait aussi plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport qui sera consacrée au Duc d'Angers.